La personne qui va intervenir, malgré, j'irais, tout ce qu'il a pu vivre, que ce soit dans le domaine du sport, en tant que personnalité, également en tant qu'homme politique, il n'a jamais dérogé de ses valeurs. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait la beauté intérieure qu'il véhicule. Et c'est ce que j'espère que nous pourrons tous percevoir à travers son intervention et dans tout ce qu'il a fait, et dans tout ce qu'il fait, et dans tout ce qu'il va faire. C'est ce qui, justement, caractérise sa personnalité, c'est d'être là pour les autres. On peut connaître parfois même des petits échecs, des grands échecs, et malgré tout, il faut rebondir et il faut garder sa ligne conductrice. Et moi, je voulais qu'il puisse partager cela avec vous, cette notion de pouvoir, en tant que sportif, bien sûr, perdre des combats, de perdre parfois un certain nombre de choses, mais ne pas se perdre soi-même. Et donc, je vais vous demander de m'aider à accueillir mon ami David Douillet.
Sylvain a été beaucoup trop élogieux, évidemment, mais il est sincère. Et j'adore cette sincérité, parce que la sincérité de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. La sincérité de sa vie, de ce que vous disent les autres, de ce qu'ils vous projettent, de ce que vous projetez vis-à-vis des autres, c'est évidemment une des notions les plus riches de nos petites existences. Et cette sincérité par rapport, allez, on va dire au thème que Sylvain a voulu que j'aborde ce matin avec vous, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que bon nombre de gens, malheureusement, dans leur vie, par confort, par peur, la peur d'affronter, et je dis bien d'affronter la vérité. Le mot peur est important, hein. Sincérité, peur. Peur, affrontement, d'affronter la vérité. Ça peut être compliqué pour moi, pour beaucoup de gens, pour tout le monde. C'est quelque chose de compliqué. Surtout quand il s'agit d'affronter ce que l'on est réellement, d'avoir la vérité en face de soi. Ça, c'est pas simple. C'est une des choses, je pense, les plus dures dans l'existence, en fait. Et savoir rebondir après un échec, ou même pendant un échec, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, on peut commencer à sentir l'échec arriver et savoir se remettre en question dans l'action pour éviter que l'échec, l'atterrissage ne soit pas trop dur, ou quelquefois avoir suffisamment d'énergie pour rectifier l'axe et transformer un début d'échec après en réussite. Mais parlons d'abord de cette notion de vérité. Moi, j'ai rencontré tout au long de ma vie un certain nombre de gens qui, après avoir échoué dans leur activité, dans leur domaine, dans leur projet, ont toujours des excuses. Et donc, ces personnes, à l'issue de ce qu'ils n'ont pas fait ou pas réussi, alors pour les sportifs, hein, je prends le cas le plus caricatural. Vous lirez, vous pouvez toujours lire encore, malheureusement, je le vois quasiment tous les jours dans le journal L'Équipe, des gens qui expliquent qu'ils ont échoué parce que l'arbitre n'était pas pour eux, qu'il y avait un vent contraire, donc ils avaient un vent de face, ils ont couru moins vite que les autres, etc. Enfin, il y a toujours une bonne excuse. Bon. La vérité, c'est que dans la totalité des cas, quand on échoue, c'est de sa propre faute. Point. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand on échoue, c'est de sa faute. Voilà. Quand on a un arbitre qui n'est pas totalement pour vous, eh bien, à vous de l'intégrer, de le capter, de le gérer, de le prendre comme information, et à vous de le traiter. C'est injuste, oui, mais c'est comme ça. Parce que des choses injustes, on en rencontre chaque jour dans notre vie. L'injustice fait partie du chemin, et il faut l'accepter, faut pas le subir. Donc quand on commence à avoir une notion d'injustice, quelque chose qui n'est pas de votre fait, eh bien acceptons-le, ça fait partie des ingrédients, en tout cas de l'équation qui vous permettra peut-être de réussir. C'est un paramètre à gérer. Les actions extérieures dont vous n'êtes pas maître. Pour ça que dans cette philosophie de gestion, allez, je vais élargir pour être bien positif, de l'échec, mais aussi de la réussite, il faut avoir les égoutilles, les oreilles, les yeux, tous les sens ouverts. Ouverts à capter l'information. Ça, c'est fondamental. Voilà. Capter les informations qui peuvent mettre sur votre chemin un certain nombre d'embûches. Voilà, des obstacles. Donc, pour les éviter, les contourner ou les surmonter dans le meilleur des cas. Ça, c'est extrêmement important. Juste une anecdote. En finale des Jeux Olympiques de Sydney, j'ai une amie qui se fait voler. Elle se fait voler son titre olympique. Céline Lebrun qui se fait voler son titre face à une Chinoise. Elle n'arrive pas à la faire chuter. Elle fait tout le match. À la fin, il n'y a pas de point de marqué. Donc dans ces cas-là, c'est l'arbitre, enfin les arbitres, il y a trois arbitres qui décident pour les athlètes. Et là, il y a deux drapeaux qui se lèvent du côté de la Chinoise. La Chinoise gagne le match, elle est championne olympique. Céline est seconde. Elle ne sera jamais championne olympique de sa vie, alors qu'elle avait mené le match de bout en bout, alors que c'était la plus forte, etc., etc., etc. Le soir, tout le monde va la voir en lui disant « Oh, ma pauvre Céline, tu t'es fait voler. C'est une catastrophe. C'est toi qui es la meilleure. C'est toi qui aurais dû gagner. C'est toi qui as donné le maximum dans ce combat. C'est normalement toi qui devrais être championne olympique. » Elle ne l'est pas. Il n'y a pas pire pour tuer quelqu'un. C'est pas la vérité. Ce n'est qu'une toute petite partie de la vérité. Je vous le dis parce que vous avez des gens à gérer, je crois. C'est bien ça. Et donc, c'était absolument pas ce qu'il fallait lui dire. Pour que quelqu'un avance et continue d'avancer, donc là, en situation d'échec, il faut lui dire la vérité. Je le rappelle, la vérité. Et c'est dur, à ce moment-là, le soir, après 4 années de préparation pour cet athlète-là, de lui dire la vérité. C'était dur pour ceux qui l'entouraient, et c'était dur pour elle de l'écouter et de l'entendre. Or, le lendemain matin de cet échec, redémarrait une nouvelle Olympiade. C'est ça, l'histoire. Donc, une nouvelle possibilité pour elle de gagner les Jeux Olympiques. Dès le lendemain, ça redémarre. Donc, s'il faut lui dire le soir, c'est la vérité, si dure soit-elle. Y compris pour elle, pour digérer l'échec. On pourra en reparler après. Comment on fait pour digérer un échec? Parce qu'il faut bel et bien le digérer, il faut bel et bien en faire le deuil. Certains ne le digèrent jamais. Certains restent bloqués toute une vie sur un échec. Toute une vie. Et pour le digérer, la vérité. Parce que quand on dit la vérité, on permet à la personne déjà de construire des solutions. On permet à la personne à nouveau de se projeter, à nouveau de se dire, voilà, j'ai déjà une première lecture d'informations sur ce qui s'est passé, sur ce qui aurait dû se passer pour que je réussisse. En l'occurrence, je reprends l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas fait chuter son adversaire. Alors, tout le monde lui disait, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre. Je lui ai dit, Céline, c'est de ta faute si tu as perdu. Exclusivement de ta faute. Voilà. La vérité, c'est ça. Alors, elle s'est un peu rebellée en me disant, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as bien vu le match, etc. Oui, je l'ai vu. J'ai vu. T'as raison, les arbitres se sont trompés. Sauf que le fait que tu n'aies pas fait chuter ton adversaire, tu as donné la décision que tu pouvais prendre toi, par ton action, à 3 autres personnes qui se sont trompées. Voilà, c'est ça la vérité. Et je te rappelle que le but d'un combat de judo, c'est de faire chuter l'autre. C'est pas d'essayer de gagner un certain nombre d'avantages ou d'instaurer une espèce de philosophie conquérante qui pourrait éventuellement influencer les arbitres à ton avantage. C'est pas ça. L'esprit d'un combat de judo. L'esprit d'un combat de judo, c'est de faire tomber l'autre. C'est pas très compliqué. Enfin, si, ça l'est, mais c'est simple à comprendre. Et là, elle a écouté. Et là, elle a compris. Elle a compris que, elle l'a compris profondément dans son style de judo. C'est-à-dire que dès le lendemain, elle a à la fois retrouvé un espoir et elle a à la fois retrouvé un autre chemin pour évacuer ce réflexe, en tout cas cette attitude qu'elle avait commencé à prendre de manière un peu trop dans la facilité, à faire un certain nombre de mouvements sans réellement chercher l'efficacité. Je ne sais pas si j'essaie d'être le plus simple possible. Voilà. C'est-à-dire qu'elle avait des systèmes d'attaque qui, en réalité, n'étaient pas forcément faits pour arriver à l'objectif primal du judo, qui est de faire tomber. C'était simplement des systèmes d'attaque pour dire « j'attaque, je suis actif ». Non, on se trompe d'objectif. Voilà. Donc, dès le lendemain, elle a repris une préparation qui l'a ramenée sur le droit chemin du judo et de l'efficacité du judo. Vous voyez ? Et ça, dans nos vies, dans nos activités, c'est souvent notre piège. Influencé par un contexte, influencé par un entourage, influencé par la vie, influencé par X choses, quelquefois, on s'écarte du chemin. On s'écarte de la voie. Alors, on n'en est pas très loin. On se met dans des voies parallèles, très parallèles, mais petit à petit, ces voies s'écartent l'une de l'autre. Voilà. C'est le phénomène du un peu du surentraînement ou de la suractivité, où lorsque on a trop la tête dans le guidon, on est trop imprégné de ce que l'on fait, c'est important, hein, on en perd le cap initial. Voilà. Il faut systématiquement savoir stopper la machine, relever la tête, regarder où on va. Parce que quelquefois, quand on pédale sans regarder, on se trompe de chemin. Voilà. Et quand on s'est trompé de chemin, quelquefois il est trop tard, et là on se prend un arbre. Et là c'est l'échec. Voilà. Donc systématiquement, régulièrement, c'est pas simple, hein, surtout quand on bosse, quand on est motivé, quand on a envie, quand on a de l'énergie, etc., etc., etc. Prendre le temps de bien relever le museau pour voir ce qui se passe, voir si on est encore sur le bon axe. Un capitaine de navire, il le fait en permanence. Il doit gérer toutes les composantes du bateau, la machinerie, la météo, la radio, etc., etc., etc. Sauf que le seul à décider du cap, c'est lui. Parce que lui, il a la projection lointaine. Vous devez reprendre cette prise de température, cette projection lointaine, pour éviter de vous tromper de cap. C'est très, très important. Établir, évidemment, des points intermédiaires, des objectifs intermédiaires, mais au long cours, d'avoir ce cap en tête. Voilà, ça c'est la toile de fond du tableau. Moi j'ai vu des gens se mettre en situation d'échec parce qu'ils perdaient ça. J'ai vu des gens, par exemple, s'entraîner beaucoup, avoir beaucoup de être dans l'action, mais ne pas être sur le bon chemin. Un exemple, j'avais un groupe d'amis qui, parce que quelquefois c'est dur, il faut se motiver, c'est pas si simple, tous les jours, de s'entraîner, et plus on vieillit, plus le sac est lourd, et donc on se mettait des challenges en permanence pour qu'en musculation, eh bien, on trouve le temps un peu plus agréable, parce que quand vous avez soulevé des tonnes pendant des dizaines d'années, une barre de muscle reste une barre de muscle avec des poids, et l'attrait à ce genre d'activité, on s'en lasse. Voilà. Donc on se mettait des challenges. Pour continuer à prendre du plaisir, pour continuer à pouvoir évoluer. En se mettant des challenges comme ça, certains se sont trop pris au jeu sans s'en rendre compte et se sont axés trop sur la préparation physique. Beaucoup trop. Sans penser à cette transition qu'on doit faire pour l'activité principale qu'est le judo. Avec des phases où on fait des quantités de judo pour transposer les acquis physiques. Voilà. Donc en négligeant ça, en se disant, moi je vais faire du judo, de toute façon ça se passera naturellement. Faux, archi faux. Donc on avait à un moment donné, on a eu, des gens qui étaient capables de soulever des charges incroyables, mais qui, lorsque vous les aviez en main, avec le kimono, ne savait pas le traduire et ne traduisait en réalité rien. Voilà, la transition n'avait pas été faite. Ils sont trompés d'objectif. Alors, s'il y avait eu des concours de développé couché, certainement ils auraient été médaillés. En revanche, ce n'était pas le sport pour lequel ils s'étaient déterminés. Faites les transpositions. C'est hyper important. En fait, je vais revenir dans le rebondissement sur l'échec, mais ce que je vous dis là, ce que je vous livre en vrac, c'est hyper important. Et j'en viens à mon premier point, qui est avant tout savoir se fixer les bons objectifs par rapport à son propre potentiel. Ne pas se mentir, ne pas se surévaluer. Ça, c'est hyper important. Ne pas se comparer de trop. Hyper important. En équipe de France, là dans cette salle, vous êtes 200, il n'y en a pas un qui se ressemble par rapport à l'autre. Pas un. Je vous le dis. Alors il y a des points communs, mais il n'y en a pas un qui réagit de la même manière par rapport à une même problématique. Je vous le dis. En équipe de France, vous avez 7 personnes. Du moins de 60 kilos au lourd. Il n'y en a pas un qui a le même profil psychologique. Il n'y en a pas un qui a le même moteur pour réaliser son objectif. Il y en aura un qui sera sur quelque chose de une revanche contre sa famille, la vie, ce qu'il veut, qui sera plutôt sur l'agressivité. L'autre sera plus sur quelque chose de très introverti, d'une compréhension du fonctionnement de son moi profond. Un autre sera dans le côté très technique, très tactique, très mental, très intellectuel. Voilà. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Et pourtant, c'est un champion du monde, c'est un champion d'Europe, ce sont les Jeux Olympiques, c'est la même médaille. Sauf que le parcours pour aller jusqu'à cette médaille, il y aura 7 parcours différents. Alors, on a tous des fondamentaux, on a tous les mêmes techniques de judo, vous avez tous les mêmes techniques. Ici, vous avez vos piliers, ça c'est extrêmement important. Ce qu'on a vu ce matin, ce que j'ai vu ce matin sur l'éthique, c'est fondamental. Ce sont vos fondations sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Mais après, lorsque vous grandissez là-dessus, vous avez votre propre histoire. On a sa propre histoire par rapport à ses propres objectifs. Ça c'est très 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 important. Parce qu'on peut se retrouver en situation d'échec parce qu'on s'est trompé sur l'objectif. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est pas la vérité. Parce que on peut s'être surévalué, ou se surévaluer constamment, et toute sa vie se considérer en situation d'échec, alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que vous avez mis le curseur à la mauvaise place. Vous voyez ? C'est dramatique. Et c'est pas un drame que, moi, si vous me faites faire un marathon, vous allez m'attendre un bout de temps à l'arrivée, hein, je vous le dis. Parce que j'ai pas le gabarit pour ça. Ben oui. Par contre, si vous me faites faire, je sais pas, un bras de fer, je vais pas être dans les derniers. C'est sûr et certain. Bon. On a tous des qualités différentes. On a tous un potentiel différent. Vous voyez ? Si à moi je me dis je vais faire le marathon en moins de 3 heures, je crois que je pourrais courir toute ma vie, ça n'arrivera jamais. Mais je le sais. Par contre, certains dans leur vie se sont dit ça dès le départ parce qu'ils se sont comparés à d'autres et il n'y a pas de comparaison à avoir. Je ne me suis jamais comparé à un marathonien. Donc ça passe par quoi ? Avant de se retrouver en situation d'échec, savoir correctement se fixer ses propres objectifs par rapport à son propre potentiel. Et pour ça, il faut absolument se connaître soi. Et se connaître soi, il y a un truc qui est très simple, c'est la glace, se regarder dans la glace et être totalement objectif avec soi-même. Voilà. Beaucoup ont peur de ça. Beaucoup ont peur du miroir. Beaucoup ont peur de la vérité. Faut pas. La peur freine, ou freinera. La peur a freiné beaucoup d'athlètes. La peur a freiné beaucoup de vies. La peur, c'est une catastrophe. Ce moment de courage qu'il faut avoir pour se regarder objectivement, c'est quelque chose qui vous fait grandir en réalité. C'est quelque chose, mais d'une positivité incroyable. C'est l'exercice fondamental d'une vie qu'on doit transmettre, mais qu'on doit s'appliquer à soi-même. Parce que ça sera un des principes fondamentaux pour se remettre en question quand soi-même nous serons en situation d'échec ou en cours d'échec. Il faudra aller devant cette glace et se dire, bon, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ? Objectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il faut le faire régulièrement, avant quand on se fixe l'objectif, pour se connaître réellement comment sommes-nous capables de réagir par rapport à telle ou telle situation ? Qui sommes-nous réellement ? Qui suis-je ? Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable, je dis n'importe quoi, de m'avaler des dossiers, des tonnes de dossiers, et ensuite de travailler sur le fond, ou est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt dans, il me faut que quelqu'un me synthétise tout ça parce que j'aime pas rester une heure cloîtré dans mon bureau, ça m'ennuie de lire de trop, donc il faut que j'ai une synthèse de ça. Par contre, quand j'ai la synthèse, là, j'ai l'énergie pour l'expliquer, pour la transmettre ou pour être dans l'action par rapport à ce que je viens de. Il faut avoir cette objectivité-là. Savoir se connaître. C'est hyper important. Il faut avoir cette objectivité de se dire, j'aime pas, c'est vrai, j'aime pas la musculation, j'aime pas courir. Voilà, ce qui était mon cas. Vous voyez ? Et pourtant, j'ai couru des milliers de kilomètres. Et pourtant, j'ai soulevé des tonnes. Pourquoi ? Parce que je savais que c'était le passage obligatoire pour être le meilleur. Il fallait que je devienne un sportif. J'étais compétiteur, je le suis toujours, mais pour être le meilleur compétiteur, il fallait que je devienne sportif. Donc il fallait que je fasse du sport. Je suis pas un sportif en fait, grande révélation de la matinée. J'aime pas le sport, je suis compétiteur. Et judoka, mais j'aime pas le sport. Non mais c'est un peu vrai, mais il a fallu que je me le dise un jour. Ok, t'aimes pas ça. Ben, tu vas le faire quand même. Il faut que tu trouves des moyens pour que ça te plaise, pour que le truc soit digeste, hein, et que tu le fasses tous les jours. Beaucoup se mentent. Beaucoup disent, ouais, moi je suis un sportif de haut niveau. J'adore courir, j'adore faire la musculation, j'adore le judo, j'adore ceci, j'adore le vélo, j'adore ceci. Alors ils le font. Et comme en réalité ils n'aiment pas ça, ils le font mal. Mais oui. Et ils le font à moitié, ils se sont mentis à eux-mêmes. En voulant absolument rentrer dans ce costume de sportif, parce que tout le monde le dit, ben non, c'est une faute, parce qu'ils s'entraînent mal. Alors que, lorsque tu te dis au départ, bon, je regarde devant ce miroir, j'aime pas courir, me lever à 6h du matin, dans le froid, avec mon short, sans avoir rien dans le ventre, et de partir pour 15 km, j'aime pas ça. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Mais une fois qu'on se l'est dit, on le fait autrement. On sait qu'on n'aime pas, donc on aborde les choses autrement. Il est évident que dans vos activités, et vous allez mentir si vous répondez l'inverse, il y a des choses qui vous gonflent. C'est normal. Il y a des choses ingrates. Peut-être que décrocher le téléphone pour appeler des gens, c'est gonflant. Bon, bah oui, écoutez. Pour certains, oui, peut-être. Eh oui, mais pourquoi pas ? Donc, quand on sait ça, eh ben on sait qu'à ce moment-là, eh bien on va se concentrer pour bien le faire. Voilà, parce qu'on sait qu'on n'aime pas ça. Donc on prend du temps, on se concentre avant, on se prépare, on peut même écrire des trucs, et puis on se dit, voilà, de telle heure, comme j'aime pas ça, ben je vais me prendre un créneau, de telle heure, eh ben je vais le faire, le truc que j'aime pas. Puis je vais m'y coller et je vais essayer de bien le faire. Ben, je peux vous assurer que vous êtes 1000 fois plus productif que celui qui se sera menti et qui fera reculer cette échéance-là, une journée, deux journées, trois journées, et puis qu'à un moment donné, il aura celui du dessus ou en dessous qui lui dira, dis donc, t'as appelé ? Ouais, mais bon, je le fais lundi. Oui, mais tu devais le faire lundi dernier. Oui, mais bon, voilà, on y est. Vous voyez ? Dans tout, on peut le dupliquer dans tout ce que je vous dis là. C'est la vérité. Donc, être sincère avec soi-même, évidemment, on le rayonne autour de soi, vis-à-vis des autres, c'est fondamental pour cette remise en question, qui est de rebondir sur quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Voilà. Quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, un échec, c'est pas la fin du monde. Hein ? C'est souvent la meilleure façon d'apprendre. Bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes. Mais c'est bon de le dire, quoi. Voilà. C'est souvent la meilleure façon d'apprendre. Et surtout, vous avez le droit d'échouer. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte. Mais je vais vous le dire, dans notre système d'éducation, de nos parents, de notre éducation, notre scolarité, je veux dire, c'est un reproche que je fais dans notre société, en particulier française, pour le coup, de ne pas avoir le droit d'échouer. Voilà. C'est une bêtise. Tout le monde a le droit d'échouer. Et dans sa vie professionnelle, ne pas avoir le droit d'échouer. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'échouent jamais. Vous avez le droit d'échouer. Évidemment, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de ne pas réussir un objectif parce que vous essayez de le faire. À partir du moment où on s'engage, où on met de l'énergie, où on travaille, on a le droit de se tromper. Par contre, on n'a pas le droit d'en rester là. On n'a pas le droit d'abandonner son idée. Trop facile. Tout à l'heure, j'entendais le témoignage que tu disais sur le type qui a changé 15 fois de boîte. On n'a pas le droit de faire ça. Le mec s'est jamais remis en question. Il n'a jamais compris. S'il vivait 1000 ans, ça lui arriverait 1000 fois. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est d'avoir peur d'analyser votre échec. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de ne pas vous remettre en question. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est d'en rester là et de répéter la même chose. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de reprendre votre tambouille et voir ce que vous avez fait et peut-être de tout changer. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et vous avez à nouveau le droit, peut-être, de faire un peu mieux et encore une fois d'échouer. C'est pas grave. C'est pas grave parce que on n'est plus dans la situation d'échec absolu, on est dans une situation d'échec, mais qui en est de moins en moins un, puisqu'il y a eu une progression. C'est comme ça que je suis devenu champion du monde. C'est comme ça que je suis devenu champion olympique. Il a fallu que je perde des combats. Il a fallu que je les analyse froidement, logiquement, pour en tirer les vrais enseignements, pour rectifier les choses, pour la fois d'après, et ça m'est arrivé, ne plus perdre au bout de 30 secondes face à ce type-là. Et perdre simplement au bout de 4 minutes 30, quasiment à la fin du combat. Et là, je me suis dit, j'ai progressé. J'ai pas encore gagné, mais j'ai progressé. Et le jour où j'arrive à tenir 5 minutes, c'est moi qui gagne. Comme la fois où, la première fois, j'avais 20 ans ou 19 ans, le tournoi de Paris, le plus grand tournoi, un des plus grands tournois au monde de judo, au premier tour, je rencontre le champion du monde en titre. 20 piges. Un coréen. 1 mètre cube. Ouais. Ça vous fait rire, mais moi je rigolais pas. Et 20 ans, 19 ans. Je vous assure, j'étais pas fier, hein. J'avais les chocottes. Hein. J'étais bon. Mais premier tour, toi de Paris. Je me suis dit, bah tu y es quoi. Il faut y aller. Voilà. T'es junior à la limite. C'est ce que je me suis dit. Je suis junior, lui il est champion du monde senior. Bon, il venait de battre le japonais, je sais plus où. Bah, j'ai rien à perdre, quoi. Si je perds, ce serait pas très grave, quoi. Puisque j'ai encore le temps d'apprendre. Mais je vais essayer quand même. Je vais essayer quand même. Je veux voir. Je vais peut-être tenir 1 minute, 2 minutes, 1 minute et demie, j'en sais rien. Je veux voir, je vais essayer. Puis j'ai essayé. Et puis ça a démarré, donc je me faisais surclasser au niveau de la prise de garde, donc j'étais plutôt souvent comme ça. Et puis j'essayais de me raccrocher aux branches par rapport à ce qui se passait. Et à la mi-combat, ben, il n'y avait toujours pas d'avantage. Donc là, enfin, y a l'arbitre a envoyé une cassure du combat, nous demande de nous rhabiller. Et là, je regarde le tableau de marque et je me dis, tiens, je ne suis pas tombé encore. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Ça, c'est vachement bien. Je vais continuer. Et en fait, je ne suis pas tombé du match. Il se trouve que dans la dernière minute, j'ai fait deux attaques. Vraiment, j'y ai mis le cœur. J'ai tenté ma chance, quoi. J'ai été complètement décomplexé. Et j'ai gagné ce match par décision de l'arbitre. Par décision de l'arbitre. J'ai gagné le match. J'ai pas fait tomber, mais j'ai gagné le match quand même. 19 ans, battre le champion du monde, c'est pas rien, quoi. Bon, après, je me suis fait... Non, non, mais n'applaudissez pas, parce que le deuxième tour... J'ai vu Bercy, mais... Au niveau des néons, j'étais tellement content d'avoir gagné ce premier match que je me suis fait satelliser après. Mais c'est pas grave, parce que ce jour-là, je me suis dit un truc. Je me suis dit, j'ai réussi à en battre un, et pas n'importe lequel. Ouais. Eh bien, si je peux faire ça 6 fois dans une journée, il y a 6 combats en général pour être... Eh bien, c'est moi qui serai le meilleur. Donc aujourd'hui, j'en bats un. Demain, je vais essayer d'en battre 2, type très fort. Et puis 3, et puis 4, et puis 5. Et pourtant, c'est de l'échec, puisque je ne gagne pas les compétitions. Mais d'accord. Mais on est loin, bien loin de l'échec, en fait, en réalité. On est dans une phase de construction pour la réussite et vers la réussite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se miner la tête quand on échoue un petit truc, quand on échoue une étape. Ce qui est le plus important, et je le reviens à ce que je disais au début, c'est de relever le museau et de voir où on en est par rapport à l'objectif final. Votre objectif final, celui que vous vous serez mis. Attention de ne pas le surévaluer. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on avance bien et dans le bon sens. Et puis, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je vais vous dire un dernier truc avant qu'on... Parce que ça, c'est important qu'on puisse rentrer dans vos détails. Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Essayez d'analyser vos victoires comme des échecs. Essayez d'analyser vos réussites avec autant d'objectivité que vos échecs. Je vous le dis, je n'ai jamais, j'aurais adoré, hein, je n'ai jamais connu la compétition parfaite. Lorsque j'ai gagné chaque titre, je n'ai jamais connu le parcours parfait. Alors quand on gagne, quand on réussit un objectif, on perd cette notion de remise en question, de se dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cheminement pour que je réussisse ? Parce qu'on est content. On est content, on se sent fort, je réussis, donc je suis le meilleur. C'est clair, c'est faux. Tu as réussi parce que tu as mis en place un certain nombre de choses. Ok, mais est-ce que les étapes que tu as mis en place étaient toutes parfaites ? Non, jamais. Savoir avoir l'humilité d'analyser ses victoires comme ses échecs, vous avancerez 1000 fois plus vite que les autres. 1000 fois plus vite que les autres. Avoir cette humilité-là, c'est fabuleux. C'est fabuleux. De se dire, ben, tel endroit, j'aurais pu faire mieux. À tel endroit, j'aurais pu échouer. J'étais à 2 doigts. Et donc d'analyser ça. Et de modifier pour ne plus que ça arrive, cette zone de risque. Parce que quand l'objectif est là, c'est le champagne, c'est la joie, c'est les amis, etc., etc. On en oublie le trajet. Sauf que on ne pense pas que vous allez vous satisfaire que d'une réussite dans votre vie. Vous avez envie de réussir plusieurs fois. Oui ou non ? Non, mais dites-le, parce que sinon... Bon. Parce qu'il y a l'après-victoire à gérer. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir digérer un échec. Mais il faut savoir digérer une victoire. Pas si simple. Moi, les types que j'ai vus gagner une fois et une seule fois dans leur vie, j'en connais beaucoup. Parce qu'après, tout change. Et souvent, votre entourage. Vous réussissez, tout change. Vous pouvez changer. Vous pouvez ne plus écouter de la même manière, c'est souvent le cas. Puisque vous avez réussi, vous savez. C'est un réflexe humain. Moi, j'ai réussi, je détiens la vérité. Faux, archi faux. Tout est en mouvement. Le monde est en mouvement. Les gens sont en mouvement. La société est en mouvement. Tout change du jour au lendemain. Tous les paramètres changent. Si vous ne vous remettrez pas en question, vous êtes mort. C'est pareil dans toutes les activités, on a le même phénomène. Le type qui, parce qu'il a réussi, ne sait pas se remettre en question, ne sait pas analyser son processus de réussite pour le lendemain faire autre chose et mieux, ne gagnera qu'une fois. Cette personne-là ne gagnera qu'une seule fois. Vous serez issu de la réussite en situation tout de suite d'échec, dès le lendemain. Hyper dangereux. Le nombre d'athlètes que j'ai vu revenir d'un championnat du monde, avec une tête grosse comme ça. Moi, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Et tout va bien. Et le pire, c'est que ça vous arrivera peut-être. En tout cas, je l'espère. Ça voudra dire que vous avez réussi. Votre entourage change. Parce que les gens vous regardent d'une autre manière. Vous réussissez. Donc, on vous flatte. On vous dit que vous êtes le meilleur. On vous dit que vous êtes formidable. On vous dit que vous êtes très intelligent. Que, voilà. Archi faux. Archi faux. C'est un lavage de cerveau qui est faux. Comme vous, hein. Moi, j'adore qu'on me dise ça. Hein. Oui. Ben oui, être flatté, c'est génial. Archi faux. C'est du vent. C'est pas vrai. Ça a été vrai peut-être à un instant. Oui. Ça a été vrai, oui, je l'avoue. Sydney 2000, finale, podium, médaille, hymne national, descente du podium, c'est fini. Voilà, terminé. La médaille, je la décroche, je la mets dans mon tiroir, je ferme le tiroir. Et le lendemain, je passe à autre chose. Le lendemain, je reviens, je regarde toutes mes vidéos de tous mes combats, je regarde où ça n'a pas été, poum, 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 qu'est-ce qui se serait passé si, qu'est-ce qui se serait passé si, dans ma préparation, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, sur entraînement, je me suis blessé, pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un écart, je l'ai payé le lendemain, bim, bam, boum. Tout analysé. Le contexte, c'est quoi maintenant? Lui, il a arrêté la compétition, lui, il démarre, c'est un jeune qui fait ce type de mouvement, les règlements ont changé, comment, pourquoi, tac, 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 tout ça dès le lendemain. Le lendemain, vous n'êtes plus rien. C'est ce qu'il faut se dire. On peut gagner à un moment donné, oui. Vous êtes le meilleur à un moment donné, oui. Mais c'est tout petit. Le lendemain, on n'est plus rien. Ceux qui n'ont pas l'humilité de se remettre en question comme cela sont en situation d'échec. Moi, j'ai vu un athlète revenir des championnats du monde. Auréolé de l'or. Il faut que vous sachiez que à l'Institut National des Sports, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez un seul qualifié pour chaque catégorie. Il y a globalement 200, à l'époque, il y avait 200 judokas qui s'entraînaient toute l'année ensemble à l'Institut National des Sports. De ces 200-là, 200 meilleurs judokas de France, de ces 200-là, qui partaient toute une partie de la saison dans les tournois, à la fin des tournois, les sélectionneurs prenaient 7 personnes. Les 7 qui allaient représenter la France, au Chopin d'Europe, au Chopin du Monde, ou au jeu. Point. Pendant ce temps-là, les 193 autres se mettaient au service de ces 7-là. Au service de ces 7-là. Ça veut dire qu'ils donnaient. Beaucoup. Ça veut dire que, concrètement, ils subissaient des milliers de chutes dans une préparation. Ils étaient réellement corps et âme voués aux 7 titulaires. Donc il donnait énormément. Le titulaire prend, s'entraîne que pour lui. Arrive l'échéance, le titulaire revient avec sa médaille d'or. Donc vous êtes d'accord avec moi, il a énormément reçu de celui qui était en face. Alors ça va vous choquer, mais dans notre jargon, on appelait ça la viande. Vous aviez d'un côté la char à canon, la viande, les 193 dont j'ai fait partie, hein. Et j'en ai bavé d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, l'équipe de France. Quand vous êtes dans la viande, vous n'aspirez qu'à un truc, c'est un jour vous retrouver en face. Évidemment. Bon. Comment ça marche? Et comment on ne gagne qu'une fois lorsqu'on change, lorsqu'on ne se remet pas en question? Tous les judokas revenant de grandes compétitions reviennent avec une masse d'informations. Ce qui se passe, les nouvelles techniques, le comportement de chacun dans chaque catégorie, etc. Nous avions beaucoup reçu. Donc quand on revenait de grandes compétitions, on revenait partager cette information avec nos camarades d'entraînement qui, eux, avaient sué sang et eau pour vous. Donc c'était le juste retour des choses. C'était leur salaire, quelque part. Parce que vous avez donné. Celui qui revient avec une tête grosse comme ça, qui, grosso modo, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et qui se pointe à l'entraînement en tant que champion du monde. Moi, j'ai plus rien à apprendre. Mon entraîneur, il n'a jamais été champion du monde, donc il n'a plus rien à m'apprendre. Déjà, ça commence. Deuxième chose, je suis champion du monde, donc je ne parle plus à mes potes, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne donnez plus. Est-ce que vous pensez une seconde que la viande va redonner de la même manière la prochaine fois? Niet. Fermé, coupé. C'est terminé. Situation d'échec total. Donc le type, dans la prochaine préparation, n'a plus la qualité d'entraînement dont il aurait besoin pour continuer à être le meilleur, donc il perd. Échec. Ne pas avoir eu cette intelligence que de redonner son savoir pour que l'autre continue à lui donner à titre perso, pour avoir cet échange vertueux et rond de « tu me donnes, je te donne et on progresse ensemble », il avait rompu le cycle, donc situation d'échec personnel. Donc au revoir. J'en ai vu beaucoup. Qu'on soit dans un sport individuel ou par équipe, c'est la même chose. Voilà. Faites ce que vous voulez, hein, mais... voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est important. Extrêmement important. J'ai beaucoup trop parlé. Si. J'ai beaucoup trop parlé. Mais important pour vous de... Pour moi, de vous laisser aussi la parole. Donc si je veux synthétiser un petit peu ce que je vous ai dit très rapidement ce matin, peut-être un peu trop rapidement, c'est de s'étalonner correctement par rapport à sa propre connaissance de vous-même, de vos capacités, de ne pas se surévaluer pour éviter d'être tout le temps en situation d'échec et donc de vous sous-estimer en permanence, parce que beaucoup de gens se sous-estiment une mauvaise image d'eux-mêmes parce qu'ils se sont trompés simplement dans le curseur au départ, alors que vous êtes très bon, mais vous avez juste mis le curseur un peu trop haut, et donc vous pensez nul. Il suffit de le baisser un petit peu, et puis là, d'un seul coup, vous rentrez dans les clous. Pour moi, je vous le dis, hein, on est tous différents, je vous l'ai dit. Mais quelqu'un qui est champion de département, et qui est au maximum de ses possibilités, pour moi, il est plus méritant, il a plus de valeur que quelqu'un qui est champion d'Europe et qui n'aura pas mis toutes ses capacités en jeu pour l'être. Vous saisissez un peu le truc? Voilà. Ou quelqu'un qui se retrouvera en équipe de France et qui ne met pas tout son potentiel ou toute son énergie ou toute la taille de son moteur pour gagner un titre européen, mondial ou olympique. Voilà. Pour moi, celui qui sait aller au maximum de ses capacités, globalement, a plus de valeur que quelqu'un qui n'exploite pas. C'est ça, en fait, la véritable médaille. La mienne, c'est celle-là. La mienne, c'est pas celles qui sont dans mon tiroir. C'est pas mes titres olympiques. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, mes titres olympiques? Rien. C'est pas ce qui me reste. Ma vraie médaille, ma vraie richesse. Enfin, en toute humilité, hein. C'est d'avoir connu ces principes fondamentaux pour arriver à réussir quelque chose. C'est d'avoir su et apprendre à me connaître, moi. Et surtout, d'avoir eu un fil rouge qui était le sport, qui était le judo, qui était la compétition, pour, à un moment donné, expérimenter cette fabuleuse histoire que d'aller au bout de ses capacités. C'est ça qui me reste. Et c'est ça qui est le plus important. Vraiment. Et c'est ça qui m'a construit. C'est pas mes breloques, hein. Pas du tout. Et donc, c'est pas l'objectif en tant que tel qui est important. en réalité. C'est tout le chemin et tout ce qu'on aura appris dans ce chemin pour y arriver. Même si, quelquefois, on a surévalué l'objectif et qu'on n'y est pas arrivé. Moi, j'ai des copains qui ont rêvé d'être champion du monde, mais qui n'avaient pas le potentiel pour l'avoir. Ils n'avaient pas la cylindrée pour l'avoir. Mais ils ont vécu... leur vie n'est pas un échec parce qu'ils ne sont pas devenus champions du monde. Pas du tout. Au contraire. Ils ont exploré leur propre potentiel. Ils sont allés au maximum de leur potentiel. Bon, ils n'ont pas été champions du monde, d'accord. Mais ils ont eu leur vraie médaille. La seule qui existe, c'est d'aller au bout de ses capacités. C'est ça le plus important. En revanche, celle ou celui qui ne va pas au bout de ses capacités, c'est un échec. Merci.